Ah oui, ah oui, il était très, très juif. Il a, dans sa vie privée, il a décidé que ses enfants iraient au mouvement jeunesse, pas les éclaireurs israéliens de France, les Bnei Akiva, les sionistes. Il savait ce qu'ils faisaient. Et je suis un ancien Aïe, alors je vous parle objectivement. Alors, pour revenir à notre problème, cette solution-là, à la française, et Annie Kriegel l'a très bien analysée, était praticable dans les pays d'Europe occidentale. Parce qu'il y avait peu de juifs proportionnellement aux pays qui avaient adopté les grands principes. D'ailleurs, l'Angleterre avait un peu précédé la France, les libertés données aux citoyens. Mais elle n'était absolument pas praticable dans les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale où il y avait des masses de juifs qui faisaient peuple et pas communauté religieuse, qui faisaient nation. Et c'est la raison pour laquelle l'autre stratégie est apparue en même temps, la stratégie sioniste, mais elle s'est heurtée aux communautés juives, enfin aux rabbins juifs orthodoxes, et d'où le drame que le rab est en train de nous décrire. Et comment là ? Alors ça, c'était la première réponse à ta question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on offrait aux juifs du temps du Sanhédrin de Napoléon, la citoyenneté française de l'époque, et c'était pas rien, la Marseillaise de ce temps-là. Okay.
Il y a eu aussi
aujourd'hui, pardon.
Il y a eu aussi l'affaire Dreyfus. Je veux dire que si d'un côté, l'affaire Dreyfus a révélé à elle la nécessité de créer un État, l'affaire Dreyfus a d'un autre côté illuminé l'État de juifs, c'est le cas de il y a cru pendant très longtemps qu'en France, il y avait des choses qui ne pouvaient pas passer parce que Dreyfus avait quand même des réalités. Et dans tout le Proche-Orient, les Thessaloniques, etc., il y a eu deux courants, ceux qui ont cru pour la France et ceux qui sont partis en Israël.
Oui.
Mais l'affaire Dreyfus a eu une influence considérable. Et le français, c'est la langue internationale, de là toute l'auréole de la France.
Oui, alors je vais vous dire, l'affaire Dreyfus, il ne faut pas hypertrophier le rôle qu'elle a eu dans la vie de Herzl. Il a pris ça comme marchir, pas prétexte, il a pris ça comme instrument. Il faut savoir que le sionisme a existé, le sionisme politique, avant Herzl, et que Herzl était sioniste avant la Dreyfus. Mais ce qui a déclenché chez lui le caractère irréversible de son option sioniste, parce que vous savez, devenir sioniste en ce temps-là, après 2000 ans d'exil, et puis cette fascination de la solution de l'émancipation française comme modèle, puisque le français était la langue culturelle internationale de l'époque. C'était des temps de passage. Et en ce temps-là, énormément de sionistes en route étaient quand même attachés à leur Gola ancestrale. Vous comprenez ? Mais ce qui a donné le caractère irréversible à Herzl, ça a été cela. Je dois vous dire que derrière l'œuvre de Herzl, il y a le Rav Yehuda Alkalai, qui était le rabbin de sa communauté, et qui était le rabbin des Sfaradim de la communauté de Herzl. Je ne sais pas si vous savez qu'Herzl est d'origine Sfarad. Je ne sais pas si vous savez. Et Sfarad européen. Et si vous lisez, peut-être un jour ça vaut la peine de faire un séminaire sur le Rav Alkalai, c'est le Rav Kook des Sfaradim, et à la même époque. Si vous lisez les écrits du Rav Alkalai, vous retrouverez le programme du Rav Alkalai dans l'état juif de Herzl. Ça va vous servir d'ailleurs de thèse de doctorat pour quelqu'un qui cherche une sainte thèse. En tout cas, pour revenir à notre question, il y a une deuxième réponse.
Le mythe de Herzl, visionnaire prophète philonique, puisque finalement, derrière lui, il y avait la Torah.
Non, mais je dois vous dire que, je suppose, parce que c'était le rabbin de son grand-père, le Rav Alkalai, je suppose qu'il a dû garder un souvenir ému pour cette exception exceptionnelle d'un rabbin intelligent, le Rav Alkalai. Mais il n'y a pas de doute que Herzl a suivi ce processus de s'opposer à la Torah pour pouvoir fonder la nation juive. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas récupérer les irrécupérables. Il n'en reste pas moins que. En tout cas, je n'ai pas dit que Herzl était le Machiav Ben Yosef. Ne me faites pas dire ça. Pardon ?
La catastrophe pour le judaïsme français, ce n'était pas tellement de l'accord entre Napoléon et Sanhédrin, c'était la séparation de l'Église et de l'État avec la Troisième République et l'interdiction de la liberté donnée aux parents de faire l'instruction religieuse en dehors de l'école. Parce que tant que l'instruction religieuse est obligatoire, les juifs allaient.
Écoutez, je vais vous dire. Moi, je ne suis pas allé à l'école juive, il n'y avait pas d'école juive de mon temps. J'étais à l'école française et je m'en félicite. La culture française, je l'aime beaucoup et je dis merci à la France d'avoir eu. Non, non, non. c'est pas tellement ça. C'est le fait que les Juifs de France, les Israélites français, ont très rapidement cru sincèrement que le judaïsme était une religion à la manière des autres et indépendante de leur nationalité. C'est ça la catastrophe. Et là, encore une fois, si vous me permettez une petite analyse, les responsables, c'est pas tellement les présidents de communauté, c'est pas tellement les consistoriaux en tant que chefs de communauté, parce que c'était de leur devoir de protéger les intérêts politiques de leurs juifs. Les responsables, ce sont les rabbins. Quand un président de consistoire dit à ses juifs, vous êtes français, le jour de la Toussaint, eh bien il faut marcher, c'est la stratégie de survie. Mais quand le rabbin dit ça, fût-ce le Yom HaTzmaout, là c'est grave. Vous en venez. Ça, c'est vrai. D'autant plus que les Français, au courant des problèmes, et il y en a, et il y en a surtout dans tous les gouvernements français qui se sont succédés depuis, eux, ça ne les trompe pas, ils savent très bien que c'est un juif. D'autant plus, surtout depuis qu'Israël existe en tant que nation reconnue par l'ONU, sinon par le Vatican. Et je vais vous répéter peut-être une petite anecdote que vous avez entendue. Il y a quelques années, j'étais invité à un congrès théologique en France, pas du tout à titre du judaïsme français d'ailleurs, à titre d'Israël. Quand je parlais français, c'est moi qui suis venu. Comment on dit, c'est moi qui suis venu, oui. Et puis j'étais assis à côté de l'évêque de la ville, un anglican d'ailleurs, et qui, pour me faire plaisir, m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, nous avons ici une colonie israélienne très sympathique. Je regarde, jusque j'ai compris qu'il voulait dire communauté israélienne. Seulement comme il parlait français. Alors, c'est clair. Les juifs, ils ne savaient pas ce que c'était jusqu'à ce qu'Israël apparaisse. Alors il a dit la vérité. Il a dit, nous avons ici une colonie israélienne très sympathique. Mais il voulait dire communauté israélienne. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si elle est sympathique ici, mais enfin, en tout cas, elle est Israël.
Est-ce que ce n'est pas ça,
à ce moment-là, très bien, à ce moment-là, il faut régulariser. C'est-à-dire devenir israélien en Israël, et après, si vous voulez faire votre Yerida pour être la communauté juive en France, pourquoi pas même. Je crois que c'est effectivement une solution. Elle n'est pas praticable dans l'état des mœurs politiques des nations. On ne peut pas donner ipso facto la nationalité israélienne aux juifs de l'étranger. C'est pas possible, parce que ça causerait des problèmes politiques aux juifs eux-mêmes, inexplicables. Mais si dans le cœur c'est déjà comme ça, pourquoi pas? La seule chose, ça serait un tikkun, en tout cas. Mais de ça on parlera peut-être plus en détail, puisque lundi soir on m'a demandé, je ne savais pas, mais j'ai vu ça dans le programme, de participer à la séance de clôture de l'année du QEJ sur le sujet Israël diaspora. Et mais ce qu'on devrait exiger, pour que ce tikkun soit, comprenez tikkun, qu'est-ce que ça veut dire, réparation, mise au point, arrangement, soit honorable, c'est en tout cas d'imposer aux rabbins de l'étranger la nationalité israélienne. Là au moins ça aiderait les petits juifs à s'en sortir. Mais allez demander leur avis aux rabbins.
S'ils peuvent être ici à
Ah oui, mais on leur proposera les mêmes procédés, de faire un petit recyclage en hébreu là-bas, pour pouvoir revenir comme Chaliar. Oui, pardon.
On peut actuellement, il y avait eu un refroidissement, c'est de nouveau possible, car son service militaire en Israël, et c'est Madame Enfant, ce qui a provoqué d'ailleurs un moins de 48 heures des pages terribles dans l'humanité.
Oui, mais en général, vous savez, ceux qui décident de faire un service militaire en Israël, c'est pour rester en Israël. Et d'ailleurs, on s'arrange pour que ça marche. Mais, et vous voyez, où des rabbins faire leur service militaire après leur diplôme de l'école rabbinique. Bien. Enfin, comme vous voyez, je crois, il y a une question chez les philosophes, et on demande souvent, dans quel temps de l'histoire de l'humanité tu aurais préféré vivre? La vraie réponse est dans le temps où je vis. C'est le plus palpitant des temps. Vous voyez, nous vivons une histoire extrêmement importante. Alors, il est évident que les équations de destinée individuelle sont toutes très compliquées et qu'on ne peut pas donner de règles générales automatiques. Mais l'essentiel, c'est de prendre conscience, lucidement, De quoi il sort? Alors, il me reste la deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est qu'il n'y avait pas... C'était... Napoléon avait dit, voilà, c'est ça où vous allez ailleurs. Il n'y avait pas ailleurs où aller. Alors, les deux ont joué... Vous vous rappelez la situation de l'Empire français entouré des coalitions? C'était ça où aller chez les barbares, les berbères. Ah oui, et je suis persuadé, je crois qu'il y a une alliance là chez Polyakov. Je suis persuadé que là, on parlera dans l'avenir de la situation des juifs de diaspora depuis 1948 comme étant une situation de marane. À tous les degrés, et à tous les degrés, mais je vous dirais, dans mes voyages, la communauté où j'ai vraiment ressenti cette situation-là, c'était à Istanbul, en Turquie. Et vraiment, le reste de la communauté de Istanbul vit dans une situation de marat. On fait tout ce qu'on peut pour faciliter les voyages des jeunes gens qui ont l'âge d'être étudiants, pour pouvoir tricher avec les ordonnances du gouvernement turc. Mais je vous donne un exemple. J'étais, je ne vous dirai pas quand, pour un séminaire pour la jeunesse juive là-bas, et je n'ai pas pu faire les cours d'hébreu que j'avais prévus dans la synagogue. Parce que le grand rabbin, pour qui j'ai beaucoup de respect, le rabbin Seo, si vous le connaissez, m'a interdit complètement de parler hébreu dans la synagogue. Parce que l'hébreu, c'est israélien. Et si ça, c'est pas une situation de marane, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, j'ai fait mes exposés dans la cave de la synagogue, où il y avait le local des mouvements de jeunesse, et derrière mon dos, il y avait le drapeau turc, et pas du tout le drapeau israélien, à la limite, dans n'importe quel local de mouvement de jeunesse, dans un pays européen, quand même, pas derrière le rideau de fer, mais enfin, il y a aussi le drapeau israélien avec le drapeau français ou anglais. Et j'ai voulu acheter un souvenir pour ma femme, je suis rentré, on m'a indiqué un magasin juif, je suis rentré, le juif m'a tout de suite reconnu, parce que là-bas il y a une interdiction d'avoir un chapeau dans la rue. Vous savez, les plata turcs, okay, le chapeau c'est le symbole de l'islam, donc. Mais j'avais une autorisation spéciale, calvitie galopante. Je me baladais avec mon autorisation des Turcs et il a tout de suite reconnu que j'étais, même si j'avais pas un chapeau, rien qu'à la barbe. Il m'a pris d'ailleurs pour un juif polonais, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir quelque chose dans les ancêtres. Et alors, il s'approche de moi et à l'oreille, il me dit chapeau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bien. Et je crois qu'effectivement, il y a un peu de chose. C'est que les obstacles, par exemple en France, ne sont pas des obstacles concrets, comment dire, des obstacles matériels du maranisme espagnol, par exemple. Ce sont des obstacles psychologiques, mais peut-être parfois subtilement plus massifs. Ça veut dire que la majorité de la population vit en France vit ce drame. Il n'y a pas ailleurs où aller. C'est comme s'il n'y avait pas là, mais c'est beaucoup plus grave. Et alors on me pose souvent la question, enfin réfléchissez, si êtes mystique, si tous les juifs du monde décidaient d'aller en Israël, est-ce qu'il y aurait de la place? Alors j'ai l'habitude de répondre, pour un, il y a de la place. On va se renseigner, mais pour un, il y a de la place. Vous ne vous occupez pas des autres.
De toute façon, ça arrange.
La population israélienne,
j'entends pas. Quel problème? Définissez-le, bah, j'ai dit beaucoup de choses à votre point. Oui, mais elle est d'une toute autre nature. Je veux dire, la vie d'un Israélien est très dure, comme vous le savez. Et on ne vous racontera jamais à quel point. Mais l'hostilité que nous vivons, c'est une hostilité d'une coalition contre la nation d'Israël. L'identité juive n'est pas en question là-bas. Je veux dire, nous avons des problèmes difficiles, mais normaux. C'est difficile pour un juif de vivre, et aussi en Israël à cause de la guerre contre le monde entier. Mais c'est pas difficile d'être juif. C'est difficile d'être homme. C'est pas difficile d'être juif. Je sais pas, on peut dire ça autrement, mais vous avez compris l'idée. Okay. Et c'est un indice existentiel radicalement différent. Alors, de temps en temps, il y a des Israéliens qui veulent sortir de la forteresse pour prendre des vacances. On appelle ça des yordim. Mais c'est des Israéliens. Pardon.
Il y a une interview de Guy de Rothschild par Peter Malka. Ça illustre ce que vous disiez au sujet de l'avenir.
J'ai pas lu, hein, donc dites.
Il faut le lire, parce que c'est vraiment très évident. Peter Malka est absolument, je n'hésite pas à lui poser des questions plus insidieuses, et l'autre, naïvement, répond, et bien c'est vraiment très intéressant. On peut dire que c'est un survol de l'avenir du pays.
Qu'est-ce qu'il répond?
Ah, qu'il a épousé une chrétienne, que ses filles sont chrétiennes, que ses garçons sont juifs, et qu'il ne connaît pas grand-chose à la Torah. Mais c'est vraiment, je ne peux pas le résumer, mais c'est vraiment un instantané formidable. Ouais. Le
temps marqué
est très habile, et ça vaut la peine d'être
lu et revu. Oui. Bon, très bien. S'il vous plaît.
Revenir à l'étude morale, est-ce que pour un certain juif israélien, il ne se passe pas comme s'il ne pouvait pas être vivant par le sens de la Torah? Le même phénomène psychologique.
Moi, je rattacherai ta question plutôt à notre texte. C'est-à-dire, ils sont encore dans cet engagement que... parce que finalement, ça fait stéréotype. Il y a des clichés de l'idéologie sioniste du siècle dernier. Que c'est la fidélité à la Torah qui nous a menés au four crématoire. Et que par conséquent, pour sauver les Juifs, il faut mettre un Magen David sur le Judaïsme. Mais j'essaye de mettre ça en évidence de la façon très claire. Je n'aurais jamais eu le courage si le Rav ne l'avait pas dit en clair. Et vous comprenez ce que le Rav a pu être pour nous. C'est-à-dire, vraiment, il nous a éclairé sur ce qui se passe dans l'histoire juive contemporaine, corollairement à l'histoire mondiale. Et je pense qu'il faut laisser le temps agir. Ce que le fils du Rav, mon maître, le mien, nous a transmis, c'est cela. Il faut faire confiance dans les chances de bonne santé de ce peuple. Il retrouvera sa Torah, finalement. Parce que c'est pas possible autrement. Et que, à la fin de l'histoire de Joseph, le Midrash explique, il se dévoile que Joseph était un tzaddik. Et à ce moment-là, Yehuda reconnaît que Joseph était tzaddik. Et je vais vous raconter comment le Midrash le dit. C'est que dans le désert, le cortège des enfants d'Israël, passant du monde ancien de l'Égypte au monde à venir, Israël, il y avait deux arches parallèles. Il y en avait d'ailleurs plus parce qu'il y avait les corps des deux enfants de Jacob. Mais les deux arches parallèles, dit le Midrash, l'arche de la Torah et l'arche de la momie de Joseph, et qu'elles allaient ensemble. Et alors le Midrash dit, les peuples demandaient, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on leur répondait, celui qu'il y a là, dans l'arche de Joseph, a accompli ce qu'il y a là, la terre. Et en citant des versets, et en citant 10 versets, qui n'ont rien à voir avec les Mitzvot, mais avec l'histoire juive, l'histoire d'Israël. Vous avez compris le... C'est-à-dire, à la fin de cette histoire, il se dévoile que Yosef, c'est Yosef HaTzadik. Et mais pendant tout le temps où il est déguisé en Égyptien, aujourd'hui il est déguisé en Américain, peu importe, ça se voit pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors vous avez énormément de petits juifs du sionisme laïque qui sont engouffrés dans cet engagement-là avec cette... je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue dans différents styles. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans la chambre à Tzaïr. C'est-à-dire le Mapam plus. Et alors, ça ne rate pas. Dès qu'on a fini de prendre un verre de thé ensemble, il me dit, je t'en veux. Pourquoi? Parce que depuis que je te connais, je ne peux plus ne pas aimer les rabbins comme avant. Et ça va s'arranger, tout ça. Bien. Pardon? C'est l'avantage de la matrice EI. L'éclaireur qui sera l'élite de France. Le bon rabbin. Si c'est avec, je suis pas rabbin. Bon, allez, on revient au problème. Un juif malade peut recevoir la sang d'un non-juif. Bien sûr que oui, il n'y a aucun problème.
Bien sûr, naturellement.
à partir du moment où il y a un cas de picoir nefèche, c'est-à-dire de danger de vie, je crois qu'en français on dit de danger de mort, et toutes les dispositions de la Torah sont levées. Tous les sens sont cachés, même le sang d'ouïe. Et je vais raconter d'ailleurs une petite anecdote, je ne sais pas si je vais la raconter. Au moment de la guerre des six jours, où il y avait toute cette grande inquiétude un peu partout, l'ambassade d'Israël à Paris avait été assaillie de demandes d'aide à Israël. Et alors il y a un non-juif qui est arrivé et avec une lettre. La lettre est restée dans les archives de l'ambassade d'ailleurs, en disant je veux absolument donner mon sang pour Israël, et je vous assure qu'aujourd'hui j'ai pas mangé de porc. Alors je dois vous dire, d'après la halakha, ça n'a aucune importance.
Oui, il y a une chose que je voudrais dire.
Oui.
Que dans une certaine mesure, ce que j'ai voulu dire à propos de Claire Villevent, c'est que ce n'est que sa grand-mère qui était juive.
Attendez, si c'est sa grand-mère par sa mère...
Oui, mais c'est sa grand-mère par sa mère, mais seulement même sa mère ne l'était
plus. Et c'est la part.
C'est comme si vous ne faisiez pas assez confiance à des retours qui ont lieu tardifs. Et je connais...
Il m'a semblé avoir dit le contraire. Hein? Non.
Vous que vous craignez les mariages mixtes. Effectivement, c'est un danger. Mais très souvent, au niveau des petits-enfants, les choses changent. Et la
vie est Écoutez, je vais vous dire.
Vous connaissez les souffrances d'un petit-enfant comme ça qui va revenir au judaïsme?
Écoutez, c'est un peu ce que je voulais dire. On peut toujours guérir des blessures. Mais pourquoi des blessures? Donc, je crois qu'il faut peut-être avancer en perspective. Tout ça, finalement, se récapitule au moment messianique ultime de la résurrection des morts. Mais pourquoi vous voulez donner tellement de travail au Messie? Je ne sais pas. Vous savez, d'après la Gemara, c'est tout le contraire. C'est le fils qui veut naître qui oblige le père à se marier. Ah oui.
Ça demande une explication.
Ah oui.
C'est quoi la question de vous?
L'explique à ce moment.
C'est
là
qui peut naître.
D'accord.
Mais ça peut aller très loin. Les enfants du mariage, éventuellement, pour garder le père.
C'est pourquoi il faut une thérapeutique et c'est pas facile. Il vaut mieux qu'il n'ait plus d'autre solution que de naître normaux. Bien. Je veux dire d'ailleurs que pour la halakha, mais il faut étudier ces questions-là, la filiation par la mère et la filiation par le père, c'est pas le même statut, et pour tout ça, il y a des raisons. Ça, je vous renvoie au rabbin de service. Oui, mais je vais vous dire, là c'est un problème important. La volonté, dans le sens de désir du Créateur, c'est que les choses se passent dans le bonheur, pas par les stratégies du deuil et du malheur et des histories. Vous comprenez? Je sais que dans la culture occidentale contemporaine, probablement à partir du XVIe siècle, on a mis une sorte de prééminence de la vertu d'avoir mal. Alors ça, c'est pas juif du tout. Pardon ? Oui, mais c'était des épreuves qu'Abraham vivait dans le bonheur. C'était pas des épreuves de malheur. Et étudiez les textes. Je veux dire, la Gemara, vous avez 7 pages dans la Masechet Brachot, premier chapitre. Et je vous cite une formule de la Gemara qui est très importante. Et la notion d'épreuve, afin d'acquérir un mérite, qu'on appelle les épreuves d'amour, elle est toujours acceptée a posteriori, jamais a priori. Ça veut dire, si l'histoire du monde, le fonctionnement du monde, à travers la destinée de chacun fait que, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la mise à l'épreuve, il y a des épreuves, alors on va s'arranger pour les faire servir a posteriori au mérite, mais jamais a priori. Et on raconte l'histoire de Rabbi Yochanan, qui était dans un temps d'épreuve, ses collègues sont venus le visiter, et ils ont demandé avec l'humour talmudique habituel, « Habibi, dans les Chaïsourim, tiens bien ces épreuves, parce que ça veut dire tu vas acquérir du mérite. » Il répond, « Lohen velosraram, ni elle et ni leur salaire. » Je réponds, vous. Alors son collègue, il a pris la main, l'a levé, il s'est guéri. Ça aussi, c'était une épreuve, d'ailleurs. Bien, je pense que certains d'entre vous m'ont demandé un certain nombre de questions, et je pense que ça peut intéresser l'ensemble du séminaire. De toute façon, j'espère qu'il nous reste le temps demain matin de finir le texte. Nous sommes arrivés au moment le plus éclairant de tout le problème. Vous avez d'ailleurs le texte, commencez à l'explorer pour demain matin. Donc je crois qu'on arrivera à boucler le programme. Alors, j'ai entendu au moins dans les couloirs deux questions importantes. Ceux qui me les ont posées, vous avez la parole. Ils sont pas là. Marc.
Universel et spécifique. C'est-à-dire que d'une part, le côté joséphite, entre guillemets, c'est-à-dire un peuple, une nation en chair et en os, avec des impôts proches et en avion. De l'autre côté, le côté spécifique, la Torah, la mission, c'est-à-dire le côté Judas.
Très bien. Je vais essayer d'expliquer au tableau. Bon, ma réponse d'abord, en une phrase, c'est que dans ces textes, et dans tous les problèmes que cela a touché, le clali, qui signifie à la fois collectif et universel, ne concerne que la collectivité d'Israël, collectif en tant que Israël. Alors, bien entendu, il y a une transposition analogue au collectif universel de l'humanité du monde. Et je me recorde un peu à l'étude d'hier soir, le danger dans la déviation en Joseph, c'est que pour réaliser cela, on tombe à l'extérieur. C'est clair. Et pratim, c'est donc individuel et spécifique, si vous voulez, mais spécifique, c'est plutôt.
Il s'agissant d'un texte des deux siècles.
Ah non, pas du tout. L'intention du Rav ici, quand il parle de Klali, c'est la collectivité d'Israël en tant que collectivité. Et il dit, et à ce niveau-là, il y a des analogies avec l'universel humain. Et quand il parle de Prati, ça veut dire spécifique d'Israël, qu'on ne retrouve pas en analogie ailleurs, la Torah. Et ça veut dire aussi que ça se réalise dans la collectivité d'Israël à l'échelle pratique des individus. Spécifique, c'est dire en hébreu Yehudi. Mais ici, il faudrait dire Prati. Et dans ce que chaque Prat, individu, a de spécifique individuel. Alors il y a un Yehudi de chaque âme à l'intérieur, chaque personne à l'intérieur de cette collectivité. Mais finalement, l'objectif, c'est que ce Klali-là soit modèle du Klali universel. Et que ce Yahid-là soit modèle du Yahid pour lui. C'est évident. Dans ce texte, c'est très clair. Yosef restitue le clan d'Israël. C'est vraiment clair.
Mais c'est la dimension
qui ressemble à l'universel. Qui ressemble à l'universel. De même qu'un juif a un corps, tous les hommes ont un corps. Tous les hommes ont une âme. Mais l'âme d'Israël, c'est la Torah, c'est autre chose. Je répète, parce que vous entendez souvent des formules, surtout dans les milieux chassidiques, où on traduit mal de l'hébreu, que les goyim n'ont pas d'âme. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai, tout simplement. Bon, si vous voulez, on fera un jour un séminaire. Oui. C'est vrai, la Torah n'a pas de limite.
J'ai appris en histoire dans le temps que le christianisme l'avait reconnu. La femme avec une âme, dans le troisième siècle après la Révolution, ou pas?
C'est possible. Ça me dit quelque chose, maintenant. Bon, et puis finalement, je ne sais pas en quel siècle le christianisme a reconnu que les juifs avaient eu l'âme. Ça, c'est encore... Bon, je crois qu'il faut imputer cela, pas au christianisme lui-même, mais disons au véhicule culturel du temps.
Je crois que ça va être pair avec la discussion sur le sexe des hommes.
Mmh.
Oui.
C'est possible. C'est au temps de Constantinople.
Voilà.
Bien, mais on m'avait posé une deuxième question, mais je ne sais plus si le juif en question est là. Top. Alors, vous voulez qu'on continue? Nous avons encore un quart d'heure.
Oui. Simplement. Vous pouvez poser la question même qu'il n'est pas là.
Non, s'il n'est pas là. Top. Alors, vous me rappelez exactement où nous sommes arrivés? Pardon ? Mishneh Hazzadim, dans les mines que je trouve cela. Là, j'y suis. Alors, nous sommes à cette ligne-là. Alken, vous avez Aïm Kaf, en abrégé. Alken, il y a Mispet Gadol, et c'est pourquoi ce deuil sera grand. Mishneh Hazzadim, des deux côtés. Chez Akiru, chez Yeshtaout, on a lu cela. Jusqu'à ce que l'on reconnaisse, et par ce fait, par ce bien, on reconnaîtra. Chez Yeshtaout, Beyesod Anetiot, qu'il y avait une erreur, un défaut, dans le fondement même de chacune des tendances, j'ajoute lorsqu'elles sont séparées l'une de l'autre, Chehen, Bnuyot, Liyot, Mitachadim, parce qu'elles sont construites, fabriquées, créées, de telle sorte qu'elles doivent être unifiées. Et Kolkar, Garmou Kilkulim, Bintotam, les Firoud. Et qu'on reconnaisse à quel point il y a eu des désordres à cause de leur séparation. Les Havel, Ish, Mahasere, qui ont mené chacun à contrarier l'acte de l'autre. Havel, Havel, c'est plus. C'est Havala, ça veut dire.
Terroriste.
Sabotage, oui, de saboter l'œuvre de l'autre. Vous voyez à quel point c'est ce que nous vivons depuis une centaine d'années. Encore une fois, c'est que les hommes de la Torah s'arrangent pour saboter les hommes de la nation, et les hommes de la nation s'arrangent pour saboter les hommes de l'autre. Et que vraiment, nous avons là une définition de l'identité messianique en marche, ce qui aurait unifié les deux tendances. Veine, Atruna, chez la Hibal et Umit, Nidgalta, or voici que, et là nous revenons au texte de base, c'est que la disposition de l'amour pour la collectivité nationale s'était dévoilée chez Ahav, le roi du royaume du Nord. Chez Hibbeb Meod et Israël, qui a beaucoup aimé Israël en tant que peuple, Israël en tant que collectivité. Ve Ahaz Maase Avotav, et qui s'est tenu à la conduite de ses pères, Imri, en particulier Imri, un des rois de cette généalogie. Omri, Omri Ken, Nahon. Shehosif, Ir, Ahat, Veret Israël. On nous raconte, et la Gemara insiste sur le fait que bien que Omri ne pratiquait pas la Torah, par le fait qu'il a ajouté une ville à Eret Israël, on lui a fait un grand respect, on l'a considéré comme un grand saint. Regardez, je ne sais pas, non. Védorché Réchumot Amrou, Kulam, Baim, Lechaya Olama. Et Dorché Réchumot est une expression qui signifie ceux qui savent comprendre le sens des noms. On dit que tous ceux qui sont dans ce cas auront le monde à venir. Li Gilad Veli Menaché, Ze Ahab, Shenafal, Begilad. À propos d'un verset qui dit Li Gilad, Gilad m'appartient, de qui parle Dieu en disant Gilad est à moi? Donc il aura le monde à venir, c'est Omri qui est mort à Gilad. Shayama Amit Panim Bemichama, parce qu'il savait être héros, si vous voulez, dans la guerre. Gamahar, chez Nartuvo Achissim, même lorsqu'il était transpercé de flèches, il Armat Panim, ça veut dire se montrer comme s'il n'avait pas mal. Kédé, Shelo, Léabait et Israël, afin de ne pas décourager Israël en guerre autour de lui. Ometz Ruach Kazé, un courage, un héroïsme de ce genre, Bam Yahava Yetera Venifla, vient d'un amour considérable. Cet amour considérable qu'il avait pour son peuple fait qu'il aura le monde à venir, bien que du point de vue de la Torah, on pourrait avoir tendance à le disqualifier a priori. Bon, vous comprenez l'idée. Gam, Kived, est à Torah. Mais d'autre part, il a aussi honoré la Torah. Même s'il ne la pratiquait pas, il l'honore. Mipene, Sha'al Kolpanim, par le fait que, de toute façon, Kvodahuma, Al Kolpanim Klaperhu, l'honneur de sa nation, à tout le moins, par rapport à l'extérieur, Lifne Ben Hadad, par rapport au roi contre lequel il faisait la guerre, Ve'im Tolze, bien que d'autre part il ne reconnaissait pas la valeur de la Torah et la sainteté du Dieu qui donne la Torah, Ameyuchede et Sheba, Kolitronam chez Israël, qui réalise, dévoile la spécificité de ce surplus de sainteté qui est propre à Israël, je veux dire, bien que il n'était pas un homme de la Torah à l'intérieur de la communauté d'Israël, par rapport à l'extérieur, il disait « ma Torah ». C'était déjà cela qui l'a sauvé pour le monde à venir. Je crois qu'il faut que je répète, n'identifiez pas dans les expériences individuelles, mais vous comprenez l'idée générale. Okay, par exemple, je ne sais pas moi, vous voyez encore dans des films d'actualité, vous avez des ministres de Joseph complètement coupés de la Torah, mais qui à un certain moment, parce qu'ils sont dans un milieu où il est évident qu'on est juif de par la Torah, alors ils viennent avec une kippa, si c'est Hanouka, ils allument les bougies. Hypocrisie, pas du tout. Ça veut dire que dans tous les cas, ils sont ce Joseph de la Torah, mais si loin, avec le temps, ça sera très peu. Je reprends la ligne d'avant, et malgré tout, nous savons, Lohikir Erka Shel Torah, il n'avait pas reconnu la valeur de la Torah. Comme nous l'avons traduit, Alken Halar Bedarke Izevel. Et c'est pourquoi il a suivi les chemins d'Isabelle. Ou Bechukot. Vous savez qui est Isabelle, hein? Jézabel. Mais je pense que le nom authentique devrait être Isabelle, comme c'est en hébreu. Ubechukot atoravot shel goye haaretz, et il a suivi les comportements déplorables des habitants du pays, des nations de la terre, l'idolâtrie, les filles amida shehaita sholetet az beruah hazman, selon le temps culturel de l'époque. C'est clair. Léo Mazé, Yoshayahu, Iguir et Tatsadaroucham. Face à ce premier exemple, Josias, lui, a mis l'accent sur l'aspect spirituel, ad endome vecholam lachim, de manière qui n'a rien de comparable chez tous les autres rois. Kehedut akatuv, comme l'atteste le verset, vechamuhu lohaya lefanav, et comme lui, cela n'avait jamais existé avant lui, Meler Asher Shav El Hashem, un roi qui est revenu vers Dieu, le Cholévavo Prol Nacho ou Prol Meodo, de tout son cœur, de toute sa personne et de tout son pouvoir. Alchelo Hatsa Klau, Liyot Yahas Israël Imumozawa, jusqu'au point qu'il ne voulait avoir aucune relation avec les nations du monde, ça veut dire qu'il ne voulait signer aucun traité avec personne. De lecture. Basé, Viter, Alderech, Irmiyahu, Annavi, chez Tziva, Mipene Hashem, Léaniach, Laharo, Beret Israël et Kraï Mitzraï. Et c'est pourquoi il a refusé le conseil, c'est-à-dire l'ordre, Tziva, de Jérémie, le prophète, qui lui demandait de laisser passer l'armée égyptienne à travers Israël, il a refusé. Il y a eu des conséquences néfastes de ce retour. L'armée égyptienne voulait traverser Israël pour pouvoir faire la guerre contre la Syrie au nord. Alken, Be'achav, Be'oshiaou, et Kansou, Shnanekudo. Donc, nous avons là, avec Achav et Josias, les exemples de ces deux points, chez Yosef et chez Yehuda, de Joseph et de Judas. Koach Mashiach ben Yosef ou ben David. La force du Mashiach ben Yosef est de celui qui est Mashiach ben David. Alken, Be'asarat, Ha'ivut, Haba, Michesron, Achanat, Ha'uma. Lorsque l'on pourra écarter, enlever cette torsion qui vient, premièrement, du manque de la tendance, la préparation à la nation comme telle, chez l'Otishtamesh, Bekochoteha, Amit Galim, Beyechide, Asgula, Letovat, Karaoui, lorsque on arrêtera d'empêcher cette force de servir à travers les hommes d'exception pour le bien de la nation tout entière, comme cela doit être, Karaoui, les Etket, Ikir, Kiaya, Efchar, les Achet, Shtakur. Au temps de la fin, il reconnaît que c'est possible d'unifier ces deux forces, Yachad, ensemble, Biyota, Akara, Shalema, lorsque cette prise de conscience sera parfaite. Imken, Gdala, Espet. C'est pourquoi s'agrandira cette expérience de deuil, Betsirouf, Shternetiot, lorsque le temps arrive que ces deux forces se joignent. Là se dévoile que les deux étaient en deuil, quand elles commenceront à se reconnaître. C'est clair l'idée. Kefi, Tachlit, Rihukam, de Poal. Et la grandeur du deuil sera la mesure de la grandeur de l'éloignement qui était le leur jusque-là. Kentiye, Kirbatam. Et à la mesure de cet éloignement, ainsi sera la force de leur rapprochement, Vakara, Zikukam, Zelazé, et la prise de conscience de ce que chacune a besoin de l'autre. Ça sera redoublé en intensité, comme le deuil de Achav et de Josias ensemble. Pas seulement le deuil de l'un, parce que l'autre m'a retrouvé réciproquement, mais on vivra les deux deuils à la fois. La tête, l'écart, les hava, les ahed et akord, afin que cela serve de leçon pour l'avenir dans ce projet d'unité des deux forces. Les askil, les amidam, les maharacha, haguna, hameviya, les tovar, klalit. D'être suffisamment intelligent, sagacité, de les dresser dans une disposition, dans une constellation haguna, convenable, qui mènera le bien de tout l'ensemble. Veine behemet, gamze apirut, et il en résulte donc en vérité, même cette séparation.